Chérie, fais-moi peur, une thématique antenne jusqu'au 7 mars sur les 3-8.
You have a dirty mind.
Un soir, comme chaque soir, alors qu'il faisait rentrer ses vaches et traversait un bois épais, une de ses bêtes, sans doute piquée par un insecte plus violent que les autres, s'affola et disparut entre les arbres. La nuit tombait, et retrouver une vache folle dans un bois sombre, c'est vouloir jouer à cache-chiffon avec une étoffe fuyante. Son chien avait beau chercher à le guider, loin devant, jamais il ne savait exactement où il se trouvait, parce que les troncs découpaient en petits morceaux ses aboiements et les dispersaient aux quatre coins du bois. Bref, ne pouvant la retrouver tout seul, il aurait dû aller demander de l'aide à la métairie, mais sachant le maître plus dépourvu d'indulgence qu'une trique, il s'en garda bien, préférant ramener la manquante, même au détriment du troupeau. Grâce à Dieu, s'il ne retrouva pas la vache échappée, le reste du bétail sut rentrer de lui-même à l'étable, guidé par l'habitude. Mais lui, dans la nuit noire, il se perdit, en dépit des aboiements venus de partout à la fois. Enfin, une route le secourut. Celle de Dournazac, de Marval, du Châtain, il ne la reconnut pas. La nuit, les routes ne disent rien et vont autre part qu'où on désire se rendre. C'est bien connu. Il se sentit donc perdu à l'arme, ce qui ne l'empêcha pas d'aller dans la direction de n'importe où. Tâtonnant le talus avec sa baguette de houx à siffler sur le flanc des vaches comme un aveugle sur celui des choses, il n'avançait guère. Aussi fut-il soulagé en apercevant de soudaines lumières à une centaine de mètres devant lui. Il courut à ce repère, mais s'arrêta à temps, figé des jambes et raidi de la gorge. Il y avait là, flamme haute, quatre grands cierges noirs, soudés sur la chaussée, et qui éclairaient un cercueil, sans couvercle. Personne autour. Il était seul vivant, avec un mort, immobile dans sa caisse, horrible de sang frais, plein le cou, la tête presque séparée du poitrail. Et ce mort, il le connaissait bien, puisque c'était son propre maître, celui de qui il redoutait tellement la sévérité qu'il venait de s'en perdre par sa faute. Mais au lieu d'être rassuré, puisqu'à présent il n'avait plus à craindre celui qui gisait outre trépas, le voilà déguerpissant en sens inverse, poussé par la frayeur, et malgré tout, servi par la chance, jusqu'aux maisons de Pensal. Tremblant et pleurant, il entra à la métairie et se jeta dans les bras de la maîtresse, qui fut bien obligée de le consoler, au lieu de le réprimander comme elle s'apprêtait à le faire. Pas à moitié, et on a compte de plus encore. Lui, il ne savait que dire à cette pauvre femme maintenant sans homme, qui allait devoir travailler double pour le remplacer, et il larmoyait sincèrement en pensant qu'on ne lui épargnerait pas non plus ce travail supplémentaire. Bien sûr, vous comprenez que son émotion lui enlevait toute logique. Il aurait dû, enfin, se demander pourquoi on avait oublié l'enterrement du maître sur la route. Un enterrement commencé, on le termine jusqu'au trou, sinon ça sent mauvais. Mais il n'eut pas à plaindre plus longtemps la maîtresse. Le maître surgit de l'étable, bien vivant, et le secoua avec tant de vie qu'il lui fit attraper sur le champ une fièvre de rebrousse-peur. Et le lendemain, lorsqu'il put enfin parler et expliquer ce qu'il avait vu, ce fut pire encore. Cette fois, le maître, superstitieux, blêmit et le punit d'une torsion de bras qui lui démonta l'épaule aux trois quarts. Mais apprenez la suite. Deux jours après, juste à l'endroit où le petit Labruni avait vu le cercueil de son maître, ne voilà-t-il pas que ce dernier déboule du cheval sur lequel il se trouvait, conduisant un tombereau de fumier, s'abrutit par terre et se laisse passer une roue sur le cou.
Quick.
Claude Seignolle, Histoire vénéneuse.